Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques instants, je reçois Francine Dubé de la Société québécoise de la schizophrénie. Plus tard à l'émission, à l'espresso et à l'espresso allongé, le sujet sera la légalisation du cannabis. En début de deuxième demi, je reçois André Zabot et Hélène Brisebois du Collège Montmorency. Elles vont nous parler d'une recherche auprès des étudiants en neurofeedback. Alors tout ça dans le menu de Folie Douce cette semaine. On commence en chanson avec NAC et Âme Mélodique. Bienvenue à Folie Douce.
La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie Douce.
J'ai le plaisir d'accueillir mon invitée qui est Francine Dubé. Bonjour Madame Dubé.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes directrice générale de la SQS, la Société québécoise de la schizophrénie, un organisme qui n'a plus besoin de présentation tant que ça, parce que vous êtes très présente, puis ça fait quand même longtemps que vous êtes dans le milieu de la santé mentale, mais c'est bien à l'occasion de rappeler ce que les organisations font, puis on sait que la schizophrénie, c'est une problématique quand même importante. Donc, comment on peut présenter cet organisme-là, l'organisme dont vous êtes directrice générale?
La première chose que je dirais, c'est que d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes une organisation provinciale et nous sommes la seule organisation dédiée spécifiquement à la schizophrénie et aux psychoses apparentées. Et en plus de ça, comme francophone, organisation francophone, même si on donne les services bilingues, nous sommes vraiment fréquentés, j'oserais dire, par aujourd'hui, avec les moyens de communication sont si faciles, par toutes les communautés francophones au Canada.
Ouais.
Et oui, parce qu'ils n'ont pas... Pour les gens qui cherchent l'information sur la schizophrénie en français, c'est sur notre site qu'on les retrouve. Et... On a des membres d'Europe, d'Afrique du Nord, etc. Oui.
Même la dernière fois que vous êtes venu, je vous parlais de ça, qu'effectivement, il y a des gens d'ailleurs... Qui viennent consulter parce que la schizophrénie, c'est partout. Il n'y a pas de différenciation à cause des peuples, à cause des classes sociales. On retrouve c'est à peu près le
tout
même pourcentage, à peu près 1%, je crois, de la population. Je ne sais pas si c'est encore
alors,
le
oui,
même.
Alors oui, on a longtemps parlé de 1%, de 1% de la population qui, un jour ou l'autre, vont vivre une problématique qui va être diagnostiquée comme schizophrénie.
Oui.
Aujourd'hui, avec l'avènement des consommations de drogue et d'événements stressants et d'événements environnementaux qui sont des éléments déclencheurs de psychose, alors nous, on traite aussi des troubles psychotiques, alors schizophrénie et troubles de psychose.
Ouais.
Et on parle maintenant presque de 3%.
OK.
Alors, c'est quand même une augmentation importante et c'est sûr que la recherche avance. On va en savoir davantage, mais les statistiques sont là pour nous le prouver. Mais avec la légalisation du cannabis au Canada, je peux vous dire qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y en ait moins.
On s'inquiète beaucoup dans les milieux, effectivement.
Alors, nous, on est là pour travailler à augmenter la qualité, contribuer à la qualité de vie des personnes qui sont touchées par la schizophrénie. Alors, c'est sûr qu'il faut penser pas seulement aux personnes qui sont malades, mais aussi, quand on est malade, vous savez, les membres de l'entourage sont aussi touchés par la maladie.
C'est sûr.
Alors, quand on regarde ici au Québec, seulement au Québec, c'est 8,5 millions d'habitants, fait qu'on peut estimer à peu près 85 000 personnes qui vivent avec la maladie. Si on parle de qui ont un diagnostic, qui pourraient avoir un diagnostic de schizophrénie, mais quand on parle de 3%, c'est trois fois ce nombre-là.
C'est ça.
Alors, et les membres des familles, en plus de ça, on pourrait multiplier par deux ou par trois. Alors, c'est important d'en parler parce que c'est une maladie qui n'est pas connue. C'est une maladie qui, n'étant pas connue, faisait peur. Ce qu'on ne connaît pas, ça fait peur. Mais quand on la connaît et qu'on comprend et qu'on apprend aussi à composer avec cette maladie-là, alors c'est une toute autre affaire. Donc, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que nous, à la société, nous avons développé donc des services. On a trois axes d'intervention. Beaucoup de services aux personnes. Alors, les personnes, tant les personnes atteintes que les membres des familles. Et des services qui touchent l'information, qui touchent l'éducation et des services de soutien.
Mm-hmm.
Alors, pour toutes les catégories. Et avec les modes de communication, comme je disais tout à l'heure, c'est assez facile. On est sur le point de lancer un nouveau site web. On a fait une refonte de façon à ce qu'il soit plus dynamique, à jour, etc. Même celui qu'on a actuellement était très bien.
Très bon,
mais il faut s'ajuster, il faut se mettre à jour. On publie c'est-à-dire annuellement, on publie des documents. On publie aussi un bulletin. On publie des infolettres pour donner l'information.
Et des vidéos
sur notre site web. On a développé un outil extraordinaire de dépistage de la psychose, le référoscope.com. Et c'est un outil justement pour observer les personnes autour de nous qui nous aident à voir si vraiment il y a lieu de s'inquiéter, de les convaincre d'aller consulter, etc.
Ouais.
Alors, on fait des recommandations dans cet outil-là. Il y a des vidéos aussi, il y a 6 clips vidéo de 2 minutes que les gens peuvent voir sur YouTube, qu'ils peuvent voir aussi sur notre site web. Et pour chacun des 5 premières vidéos, on présente une situation d'un symptôme important. Quand on parle de troubles psychotiques.
Ouais.
Alors, ça permet d'identifier ces symptômes-là puis de comprendre comment les personnes peuvent fonctionner quand ils manifestent ces symptômes.
Justement, essayons de sans rentrer dans trop de détails, mais qu'est-ce que c'est? Juste définir ce que c'est la schizophrénie. Tu sais, on entend ça en société, on dit... on parle de certaines personnes qui sont schizophrènes. Tu sais, on a l'impression que la schizophrénie, ça a comme été pris par la société, puis on dit quand les gens changent vite d'idée, mais est-ce que c'est la schizophrénie?
C'est-à-dire que la schizophrénie, d'abord, c'est une maladie du cerveau, il faut s'entendre. C'est une maladie qui est importante, mais c'est une maladie qui affecte la pensée, les émotions et le comportement. Alors, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'il faut se situer, là. Et c'est pour ça qu'il y en a qui me font toujours rire. Moi, il y a des gens qui relèvent le défi de la maladie quotidiennement et qui sont portés à dire, moi, j'ai un problème de dopamine. C'est un problème de dopamine dans le cerveau. Donc, ça ne se guérit pas, là, par l'esprit, le Saint-Esprit, comme on dit. Ça se guérit avec une... Ça peut se traiter les symptômes par une médication. Mais les gens peuvent avoir des hallucinations visuelles, auditives. Ils en ont vraiment. Même si nous, on ne les voit pas à côté, on ne peut pas leur dire, ben non, il n'y a rien. On ne peut pas les contrarier. Ils ont vraiment des hallucinations. C'est ça qui est provoqué par le cerveau.
Okay.
Alors, des hallucinations, on entend des voix, on voit des choses que personne d'autre voit, mais ils les voient vraiment. Ils peuvent avoir des délires religieux ou tout autre. Alors, il y a plusieurs symptômes comme ça qui s'ajoutent à un fonctionnement normal qu'on appelle des symptômes positifs. Ça n'a rien de positif, mais pour donner l'idée que c'est plus, OK, que ce que normalement un cerveau qui fonctionnerait normalement aurait. Et d'autres symptômes qui sont plus négatifs, donc qui diminuent le fonctionnement. Alors, des déficits importants du retrait social, c'est-à-dire les gens vont manquer de confiance en eux. Vous savez, des gens, on a souvent comparé la schizophrénie qui se manifeste à l'adolescence à la crise de l'adolescence. Parce qu'il est enfermé dans le sous-sol, il ne veut rien faire, il écoute la télévision en journée longue ou bien sur son ordinateur, puis il ne veut pas voir d'amis, il a rompu avec ses amis, avec tout le monde, il s'enferme. Mais c'est souvent des manifestations ça, importantes qu'il ne faut pas négliger, puis il faut amener les personnes justement à consulter. C'est le défi des parents qui voient ça, d'aller chercher de l'aide pour amener la personne à se faire traiter. Dépistage précoce, c'est un mot-clé.
Ouais.
Plus vite les personnes vont être traitées, plus vite elles vont se rétablir, moins il y aura de dommages dans le cerveau. Alors, il faut contrer la stigmatisation parce que souvent, les gens refusent d'aller se faire traiter parce qu'ils ne veulent pas être associés à la problématique de santé mentale. Et ce n'est pas tout le monde qui utilise la folie douce, hein, quand on parle de ça.
C'est vrai.
Alors, le problème, la stigmatisation, ce que les gens pensent de ces personnes-là, ça fait souvent plus mal que la maladie elle-même. Alors, il faut donc trouver des moyens justement pour que ces personnes-là aillent consulter. On va dans les écoles, on s'est associé à des partenaires qui ont un réseau provincial pour aller dans les écoles, pour parler, entre autres, comment éviter la dépression, contrer le suicide, etc. Puis là, on s'en est fait des acteurs coopératifs de façon à ce qu'ils puissent ajouter aussi tous les facteurs de troubles psychotiques de façon à ce qu'on puisse motiver les gens à aider des proches qui pourraient avoir des symptômes pour aller consulter rapidement.
On dit souvent que la schizophrénie, Mme Dubé, que c'est une maladie qui se déclenche justement alors que les gens sont jeunes adultes. Particulièrement cette maladie-là, quand on parle
tout
de santé mentale, c'est encore
c'est
le cas.
C'est tout à fait vrai. C'est prouvé d'ailleurs, puis c'est le changement hormonal qui cause bien des choses. Alors, chez les garçons, c'est plus jeune que chez les filles. Chez les garçons, il y a des périodes de... La crise psychotique arrive à un moment donné, c'est souvent à la fin de l'adolescence, jeune adulte, etc. Mais avant ça, on a prouvé que pendant 5 ans, il peut y avoir, avant d'avoir les symptômes psychotiques, il peut y avoir ce qu'on appelle des prodromes, là, des signes avant-coureurs de psychose. Mm-hmm. Et c'est là qu'avec notre référoscope, nous, on a voulu intervenir pour que les gens aillent rapidement consulter, se faire traiter de façon à ce qu'ils ne vivent pas, si vous voulez, le défi d'une maladie chronique là, pour leur vie.
Le référoscope, ça se trouve en ligne? C'est un questionnaire qu'on remplit?
C'est un outil en ligne, il est bilingue.
Okay.
Alors, REFER, R-E-F-E-R, trait d'union O, trait d'union SCOP.
Ouais.
Donc, c'est comme une observation, le scope, là. Et la finalité de ça, c'est de référer la personne à des acteurs. Donc, tout est là sur le site web. Il y a des clips vidéo pour que les gens puissent voir un peu à quoi ça ressemble une personne qui entend des voix. C'est pas physique, là. Il faut vraiment observer son comportement, puis on voit bien qu'elle entend des choses que personne n'a entendues.
Ouais.
Alors, mais c'est réel. Puis ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est qu'il y a un symptôme important en schizophrénie, qui est ce qu'on appelle, nous, dans notre langage, le manque d'insight. Et ça veut dire que la personne n'est pas consciente qu'elle est malade. Alors, c'est une problématique importante parce qu'elle ne se croit pas malade. C'est les autres qui pensent ça, mais pas, elle n'est pas malade. Mm-hmm. Le défi est énorme.
Oui.
C'est ce qui fait que le consentement aux soins est difficile à obtenir.
Il y a beaucoup, ça arrive souvent dans plusieurs maladies, même les gens qui font des dépressions majeures, des fois, ils sont un peu dans le déni. C'est un peu le même principe.
Tout à fait. Ils sont dans le déni pour toutes sortes de raisons, mais ça, ça fait partie de la maladie, là, le mal d'insight. Fait que c'est différent de d'autres maladies, mais je vais vous dire que c'est un défi. Alors, moi, je dis le dépistage précoce. Ça, c'est majeur. Il faut venir chercher les outils. On a de la documentation, on a des programmes de formation. Là, on a eu une subvention de Belle Cause pour la Cause pour aller offrir des programmes d'éducation qui ne s'offrent pas dans les régions éloignées.
Okay.
Alors, on s'en va dans 5 régions éloignées là, au cours du printemps, l'été et l'automne, mm-hmm. pour pouvoir justement offrir la même chose et former des formateurs sur place qui vont pouvoir ensuite continuer à donner ces formations-là.
Donc, finalement, c'est ça, malgré la problématique de schizophrénie, vous êtes bien installé, ça devient un service extrêmement utile. Mm-hmm. Refonte de site, tout ça, comment vous voyez, disons, les prochains... ça fait déjà un bon bout de temps que vous êtes directrice générale. On sent qu'il y a beaucoup de positifs dans l'approche et tout ça. Donc, comment vous voyez la suite, en fait, pour
l'organisation?
Oui, pour la SQS. Bien,
pour la SQS, je vais vous dire, il y a des grands défis. Comme toute autre organisation, on a des enjeux majeurs. Le réseau de la santé a changé beaucoup. La difficulté aussi à trouver du financement public, c'est-à-dire il y en a du financement public, mais du
faut
financement
se battre.
Privé.
Faut se battre
le
beaucoup,
financement privé, je vous dis, c'est plus facile de financer des organismes de soutien aux enfants, alors que surtout, ça fait partie des éléments de stigmatisation, ça.
Ouais.
Alors, c'est pour ça que les défis sont grands. Nous, on s'oriente beaucoup aussi vers le rétablissement, et c'est pour ça qu'on a des pères aidants. On a un père aidant et une pères aidante de famille. On va avoir une deuxième pères aidante de famille là, qui travaille auprès de la clientèle qui sont dans le milieu hospitalier.
Ouais.
ou à l'externe. Ouais. Et en plus de ça, bien, on met en place là, un programme d'activité physique avec un partenaire spécialiste dans le domaine pour que les personnes puissent se prendre en main, faire de l'activité physique, socialement aussi se mêler, sortir de chez eux. Alors, on a fait plusieurs projets et on continue, nous, à développer, puis surtout à utiliser les nouvelles approches comme là sur le site web. On met nos conférences sur le site web. Alors, on est en train de revoir de quelle façon on va pouvoir entrer plus dans les familles. Aujourd'hui, les gens sortent de moins en moins. Alors, il faut aller là où ils sont. Et c'est ce qu'on fait quand on travaille dans les hôpitaux, dans les écoles. C'est nous qui se déplaçons.
Oui.
Et pour ça, ça prend des moyens pour le faire.
Exactement. Madame Dubé, c'est fort intéressant. J'aimerais qu'on mentionne les coordonnées. Le site, je pense qu'on retrouve tous les coordonnées, tout ça. Je pense que tout le monde a Internet.
Société québécoise de la schizophrénie.
Oui.
Et vous tapez ça, on sort en premier sur le Google.
Oui, exactement. Donc, vous avez le site
alors
complet.
Alors, on sort
là.
Puis à ce moment-là, je me dis, vous allez nous trouver.
Tous les liens sont là.
Vous avez tous les liens,
Facebook,
vous avez comment
tout.
Nous trouver. On est sur Facebook, sur Twitter, sur quel autre?
Sur YouTube.
YouTube
là,
aussi.
C'est ça, bien sûr.
Oui, alors on a notre plateforme Référoscope sur la plateforme Curio de Radio-Canada aussi, parce qu'ils l'utilisent comme programme éducatif.
Ouais. Ben, merci beaucoup. Bonne continuité, bonne
merci
continuation.
Beaucoup. Oui, et on continue. Les défis sont toujours là, puis ils ne seront pas plus petits dans l'avenir que dans le présent.
Merci d'avoir été des nôtres.
Merci.
Au revoir.
L'amour qui peut faire tomber une ville, le même Fred Zek, fou d'amour, un code d'immense fou d'amour dans le continuum du vacuum, flic à cause du vide de sang. Ça commence quand ça finit, ouh, c'est ça, ça me booste la folie. Puis ça pas d'allure comme chute, c'est quoi le but de se garrocher comme un décervelé, de penser que ça va faire comme un film classé. J'ai pas de scénario de happy ending. Ça fait semblant, fais-toi faire la face.
c'est le perdu comme au cas Flush Royale. La drôle, la 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 la. Skills à zéro, freak out, freak, c'est chic, ça cogne dans le cerveau. Freak d'amour, love bites toute la tête. Freak d'amour qui survit entre naître et naître.
Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604, le 514-990-9604.
C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Bonjour Ghislain Malo.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, Pierre, tu vas nous parler du pot ou la légalisation du cannabis.
Oui, exactement.
Un peu plus poliment. Ouais.
Oui. Juste souligner que pendant cette chronique, on n'est pas sous l'influence du
produit. Non. Non. Et surtout que je pense que ce sujet-là, certains sont d'accord, mais certains ont des grandes réserves parce qu'il y a quand même un rapport avec la santé mentale.
Oui, c'est très partagé. Oui, sûrement qu'il y a un sujet, un rapport avec la santé mentale, tu vas voir. Mais je vais commencer par faire un retour des événements. Je vais vous lire un extrait d'un article sur Internet sur le site encadrement cannabis tout collé .gouvernement.quebec.ca. Si on regarde en arrière, le 13 avril 2017, le gouvernement fédéral a déposé un projet de loi visant à légaliser le cannabis récréatif. En vertu de ce projet de loi, le gouvernement fédéral serait responsable de la réglementation de la production, de l'adoption de normes de santé et de sécurité et de l'établissement d'interdictions criminelles. Le gouvernement du Québec a la responsabilité d'encadrer la distribution et la vente et d'assurer le respect de la réglementation. L'encadrement envisagé vise à réduire les risques et les méfaits sur la santé et la sécurité des individus et à diminuer la criminalité systémique liée au cannabis.
Ouais.
On va voir si, si ça va fonctionner.
Un des buts importants, c'était d'enlever justement l'argent au crime organisé puis d'avoir des rentrées d'argent au gouvernement. Oui. Donc,
et améliorer la qualité du produit.
Aussi, s'assurer qu'il y a une certaine qualité en tout cas.
Et ce qu'on nous dit encore sur le site, afin de mettre en place cet encadrement, le gouvernement du Québec a consulté les experts, les citoyens et les organisations au cours de l'été 2017. Suivant ces consultations, un projet de loi sur l'encadrement du cannabis au Québec a été déposé à l'automne 2017. Et du 21 août au 12 septembre 2017, le gouvernement du Québec a entendu la population lors de consultations publiques. Ces consultations offraient la possibilité aux citoyens et aux organisations de se prononcer sur les enjeux liés à la légalisation du cannabis. Maintenant, dans un autre article, il y a le journaliste François Drouin qui avait écrit l'article ayant pour titre « La légalisation du cannabis dans le collimateur des psychiatres ». Ça, c'est ce qui nous intéresse le plus dans le cadre de notre émission. M. Drouin nous dit « Ils sont jeunes, ils sont curieux, ils n'ont pas froid aux yeux et à leur majorité, ils pourront consommer du cannabis en toute légalité prochainement ». Ça, c'est on recule un peu, là, il y a quelques mois.
Ouais.
La vie est belle? Non, pas tout à fait. Protestent les psychiatres du Québec. La légalisation du cannabis exposera les jeunes à des risques importants en matière de santé mentale. Fumer du pot, pas avant 21 ans, clame-t-il. Le psychiatre Jean-François de la Sablonnière est catégorique. Le cannabis est le principal vecteur de psychose chez les adolescents. Il nous dit « Dans les salles d'urgence, le lien est évident. Il y a 2 semaines, alors que j'étais de garde, sur 5 patients qui se sont présentés avec une perte de contact avec la réalité, 3 d'entre eux étaient des consommateurs de cannabis. Il y a une disproportion évidente. Selon ce professionnel de la santé, les recherches scientifiques révèlent que le cerveau humain se développe jusqu'à l'âge de 25 ans. Pendant cette période cruciale de maturation, la consommation de cannabis augmente considérablement le risque de psychose. Fumer un joint alors que le cerveau est en pleine maturation décuple les chances de maladies mentales. Depuis 2004, les études démontrent hors de tout doute les liens entre le développement du cerveau, la consommation de cannabis et le développement d'une maladie chronique, comme la schizophrénie, un risque qui augmente de 400 à 700 % chez les jeunes consommateurs. Le docteur de la Sablonnière nous dit « Consommer du cannabis une seule fois avant l'âge de 18 ans double le risque de schizophrénie. En consommer une quarantaine de fois avant l'âge de 18 ans, ce qui est peu, l'augmente par 7. »
C'est énorme. Hein?
C'est beaucoup.
7 fois plus de chances de développer une schizophrénie.
C'est énorme, oui. Fumer du cannabis durant cette période revient à jouer à la roulette russe. Et il nous dit, le docteur de la Sablonnière, en même temps, il y a une partie de la loterie qui appartient à la vie. Il y a des déclencheurs de ces maladies qu'on peut éviter et on doit réaliser que la drogue qui précipite le plus de psychose, qui est la plus liée à l'augmentation de la schizophrénie, c'est le cannabis. C'est la drogue qui va perturber le plus les fonctions cérébrales. Fin de citation.
C'est étonnant qu'en sachant tout ça, le gouvernement va de l'avant et permet quand même que des jeunes de 18 ans...
C'est le risque. C'est un peu comme l'alcool. On sait qu'il y a des gens qui conduisent en état d'ébriété puis qui causent des décès, mais en même temps, il y a des gens qui le consomment de manière raisonnable. C'est comme une balance. Ouais. Je veux dire, tout est comme une balance aussi, là.
Oui. Pour le docteur de la Sablonnière, il nous dit « Pour lui, la légalisation n'est donc pas un problème en soi, en autant que la consommation ne s'en trouve pas banalisée. Au-delà de l'image de légèreté associée à la marijuana, en partie incarnée par le premier ministre Justin Trudeau, le véritable portrait du cannabis est la psychose. » Le docteur de la Sablonnière nous dit qu'il s'en prend au mythe qui entoure la consommation de la marijuana. Il nous dit « On entend que ce n'est pas grave, puisque ça va être légal, que le cannabis sera de bonne qualité puisqu'il sera contrôlé et donc moins dangereux, qu'il s'agit d'un produit naturel et que ce n'est pas pire que l'alcool. » Et il nous dit, comprenez-moi bien, l'alcool ne crée pas de psychose. Le pot, oui. L'alcool n'a pas le même impact sur le cerveau. Le docteur nous rappelle que 50 % des psychoses induites se transforment en psychoses chroniques, ce qui aura un impact tant chez les jeunes que dans le système de santé. Il nous dit en terminant, on va augmenter le fardeau de la maladie mentale, on va scraper des vies, on va augmenter le fardeau sur les soins médicaux en urgence et en service psychiatrique.
On va poursuivre de toute façon, Pierre. C'est intéressant, puis c'est des questions à se poser justement sur la légalisation du cannabis. Merci et demeurez à Folie douce.
De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles.
Je m'entretiens maintenant avec mes invités que je rejoins au bout du fil, donc Mme Andrea Zabot et Mme Hélène Brisebois. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour. Alors, bienvenue à l'émission Folie douce. On va parler ensemble d'un programme intéressant. C'est un peu, en fait, par rapport au neurofeedback, ça se passe au niveau du collège Montmorency. D'abord, vous êtes chercheuse toutes les deux, je pense, au Centre Alpha Neuro, professeure aussi de psychologie au collège Montmorency. Donc, Mme Brisebois, expliquez-nous donc justement quel est ce programme dont on parle.
En fait, c'est un programme qui a débuté il y a quelques années. En fait, comme toutes les deux, on est clinicienne puis professeur en psychologie.
Ouais.
On s'intéresse à toutes sortes de phénomènes. Puis ce programme-là est né d'un grand intérêt qu'on a pour tout ce qui est la compréhension des troubles mentaux et puis des nouvelles découvertes qui entourent ces phénomènes-là. Dans le fond, on s'intéresse à ça. On s'intéresse aux troubles mentaux, on s'intéresse aux nouvelles connaissances sur le cerveau. Qui, dans le fond, nous a amené toutes ces nouvelles connaissances-là à s'intéresser à une nouvelle technique qui s'appelle le neurofeedback.
Oui.
Le neurofeedback, dans le fond, c'est une technique qui permet d'apprendre à contrôler le cerveau. Fait que nous, on s'est dit, ça serait intéressant de savoir plus comment que cette technique-là fonctionne. Et puis, on est allé chercher une formation dans ce domaine-là.
Et qu'est-ce que c'est le neurofeedback comme tel? Je veux dire, est-ce qu'on peut l'expliquer plus précisément?
Oui. En fait, je pourrais vous communiquer, Andrea, puis après vous expliquer un peu plus c'est quoi le neurofeedback.
Oui, bien sûr, Andrea Zabot, oui.
Oui, donc, en fait, le neurofeedback, c'est assez novateur. C'est une technique qu'on utilise de plus en plus pour justement aider les personnes ayant un TDAH, donc un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et l'idée derrière cette technique-là, c'est d'amener la personne à apprendre à moduler ses ondes. Les ondes cérébrales, en fait, c'est l'électricité cérébrale que on peut mesurer à l'aide d'électrodes. Et c'est avec une évaluation qu'on appelle, en fait, l'électroencéphalogramme. On peut le comparer avec l'électrocardiogramme qu'on utilise pour justement mesurer les battements cardiaques. C'est de cette façon qu'on arrive à mesurer l'électricité cérébrale. Et ce que la recherche nous amène, nous démontre, c'est que les caractéristiques chez les personnes ayant un TDAH, on peut le détecter par ce genre d'évaluation-là, ce qui nous amène ensuite à pouvoir aider ces individus à moduler leurs ondes cérébrales et à diminuer certains types d'ondes qui favoriseraient pas l'attention soutenue, le focus, la concentration en classe notamment.
Comment vous avez fonctionné pour être capable de récupérer des données? Ça a été long, le processus? Est-ce que ça fait longtemps que le programme a été mis en place?
En fait, le programme a été mis en place depuis presque 3 ans.
Oui.
Ici au collège. Et nous, au début, on a commencé avec un projet pilote, ce qui nous a amené à pouvoir faire une demande de subvention, ce que nous avons obtenu pour 3 ans. Donc, présentement, le CRSH nous subventionne. C'est une subvention fédérale. C'est le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Et donc, c'est grâce à cette subvention que nous menons la recherche depuis presque 3 ans. Donc, ce qui nous amène vers la fin du projet dans quelques temps et nous aurons les résultats à présenter suite à ça.
Et comment vous avez fonctionné? Vous avez demandé des volontaires, c'est des gens qui fréquentent le collège Montmorency. Donc vous parliez d'électrodes, tout ça, donc il y a des gens qui se sont portés volontaires ou comment vous avez fonctionné?
En fait, nous, on a affiché ce programme-là. Faut dire que le neurofeedback, c'est un programme d'intervention qui permet, c'est dans le fond une alternative à la médication. Puis nous, comme prof de cégep, on a fait un appel à la communauté des étudiants. Puis on a demandé qui, dans le fond, parmi ces étudiants-là, serait intéressé à recevoir un traitement qui serait, dans le fond, une alternative à la médication.
Ouais.
Qui permettrait d'augmenter par eux-mêmes un entraînement qui permettrait d'augmenter leur capacité attentionnelle. Les étudiants au collège, c'est des étudiants qui sont motivés à apprendre, puis quand ils font face aux troubles d'attention, qui ont des problèmes d'attention, qui ont des problèmes d'organisation, qui sont hyperactifs, ils cherchent des façons d'améliorer ces difficultés-là. Fait qu'on a eu beaucoup, beaucoup de demandes pour... En fait, depuis 3 ans, là, on arrive à la 100e personne, presque à la 100e personne qui a complété le programme d'intervention. Là.
C'est intéressant, ça va vous donner quand même une bonne base pour justement tirer des conclusions puis faire probablement des recommandations à ce moment-là. C'est ça qui est le but, c'est d'éviter le plus possible la médication. Là.
Oui. En fait, jusqu'à maintenant, les résultats qu'on a obtenus, dans le fond, on fait une évaluation au début. on fait une évaluation des symptômes comportementaux. Là, dans le fond, les gens nous rapportent qu'est-ce qu'ils ont comme symptômes, qu'est-ce qu'ils ont comme difficultés. On prend aussi des mesures de toutes sortes. Là, on a parlé d'encéphalographie, on a parlé de... On fait aussi des évaluations neuropsychologiques. Et puis, on refait ces mêmes évaluations-là à la fin du traitement. Puis quand on compare les deux évaluations, pré-traitement puis post-entraînement, le programme d'entraînement, c'est un programme qui est assez long, là, fait que c'est au début d'une session puis à la fin de la session. Il y a 30 entraînements d'au moins une heure et quart à peu près. Fait que durant la session, c'est deux entraînements par semaine. C'est des étudiants qui sont vraiment motivés à recevoir ces traitements-là. Mais à la fin du traitement, on remarque quand même des belles améliorations. Puis on remarque des améliorations non seulement au niveau des comportements, au niveau des symptômes rapportés, mais également au niveau des ondes cérébrales puis des mesures d'électricité cérébrale qu'on capte sur le cuir chevelu.
Ouais. En fait.
Ouais. C'est comme si les changements des symptômes qui sont rapportés par nos étudiants se manifestent également quand on prend un portrait de l'activité cérébrale ensuite.
Oui. Les entraînements, on parle de quoi à ce moment-là? Qu'est-ce que les étudiants ont à faire pour s'entraîner justement pour améliorer leur capacité d'attention, là?
Dans le fond, un entraînement, la façon que ça se passe, c'est qu'on va, dans le fond, en fonction de l'évaluation, on va cibler, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut faire là avec l'individu. Est-ce qu'il y a trop d'ondes rapides qui fait en sorte que les ondes rapides, là, ça nous donne un paquet d'idées, un paquet de pensées qui sont vraiment enchevêtrées les unes aux autres, là, puis ça nous empêche d'avoir les idées claires. Des fois, il y a un paquet d'ondes lentes, des ondes trop lentes qui font en sorte qu'on est distrait, qu'on tombe dans la lune, qu'on peut être, dans le fond, manquer de focus. Ouais. Quand quelqu'un nous parle, ces ondes-là sont caractéristiques de cet état-là. Puis on manque souvent d'ondes qui nous permettent d'être mobilisés. Fait que des ondes qui sont un peu plus rapides, mais qui nous permettent d'être mobilisés face à une tâche sans être anxieux, sans être stressé, mais qui nous permettent d'être là puis activés, dans le fond. Fait que nous, on demande à l'individu de changer ses ondes cérébrales-là pour atteindre un niveau d'attention plus soutenu. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on place l'électrode là où ça fait mal, là, dans le fond,
ouais.
Là où est-ce que la personne doit s'entraîner pour améliorer son niveau d'attention.
Intérêt.
En fonction de ce qu'on a capté avec l'électroencéphalogramme, c'est ça qu'on va faire. On va placer l'électrode à la bonne place sur le cerveau pour être capable d'avoir un bon impact au niveau attentionnel, là où est-ce qu'on trouve qu'il y a le problème. Puis, on va demander à la personne de regarder une vidéo puis d'écouter la musique. Puis, dans le fond, le vidéo et la musique vont se mettre à arrêter quand la personne va sortir de cet état d'attention-là.
Okay.
Puis va continuer à jouer quand la personne va faire la bonne chose, c'est-à-dire qu'elle va apprendre à moduler son électricité cérébrale pour arriver dans un état d'attention, puis qui va permettre à la personne de voir un vidéo puis d'entendre une musique jouer.
Okay.
Puis, dans le fond, à force de faire ça, à force de répéter, à force d'être dans le fond de récompenser la personne en faisant jouer le vidéo puis la musique quand elle est dans le bon état, mais la personne par conditionnement va changer dans le fond son cerveau, va établir plus de connexions neuronales, il va avoir plus de connexions dans le cerveau, il va avoir des connexions qui sont plus fortes, qui vont permettre à la personne après ça d'arriver en classe puis d'avoir des capacités d'attention qui sont améliorées.
Est-ce que vous avez toutes les deux, est-ce que vous avez toutes les deux, Mme Brisebois, Mme Zabeau, mis ça en place ou vous êtes un peu inspirée parce qu'on reconnaît des grands, justement, des connaissances, justement, sur le conditionnement et tout ça. Comment vous avez procédé pour mettre ça en place? Est-ce que c'était déjà tout à monter ou si vous avez déjà un peu une base?
En fait, on a été appuyé par des experts cliniques qui avaient déjà, qui connaissaient le neurofeedback. C'est des personnes qui nous ont formés. C'est des gens qui travaillent à Montréal.
Ouais.
Et puis, dans la formation, on a établi des liens avec ces personnes-là qui nous ont permis d'aller chercher dans le fond, les procédures puis les manières de faire pour monter un programme qui se tienne puis, dans le fond, qui réplique pas mal ce qui se fait dans le privé.
OK.
Fait que, dans le fond, le programme qu'on a monté, c'est un programme personnalisé qui s'appuie beaucoup, beaucoup de ce qui s'est fait, de ce qui a été monté dans les entreprises privées qui offrent des traitements en neurofeedback, des entraînements en neurofeedback. Ça coûte très cher en privé.
Oui. Est-ce que vous êtes satisfaites toutes les deux, justement, de votre parcours? Parce que ça fait quand même quelques années, comme vous nous mentionniez là, tout à l'heure. Donc, est-ce que c'est les résultats sont quand même intéressants pour les efforts que vous y avez mis?
Ben, en fait, on a mis énormément d'efforts, mais oui, on est satisfait des résultats jusqu'à maintenant. Oui, le cégep aussi. Le collège, la direction du collège nous appuie dans ce projet-là, puis souhaiterait voir ce projet-là se continuer éventuellement pour le mieux-être de nos étudiants.
Il nous reste une minute. En terminant, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des infos? Comment on peut avoir accès à ces données-là? Est-ce que vous arrivez à la fin là, du processus d'études? Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos sur ce que vous faites, par exemple?
Oui, bien sûr. D'abord, nous allons certainement publier. Pour le moment, on ne peut pas évidemment dire où et à quel moment les publications vont sortir.
Oui.
C'est toujours difficile de prévoir d'avance, mais nous avons aussi à plusieurs endroits où nous sommes invités pour faire des présentations. Donc, nos données, une fois terminées, sous peu,
oui,
seront présentées dans souvent des colloques.
Oui.
Des moments où on va, par exemple, surtout de spécialiser des colloques ou des rendez-vous,
oui,
spécialisés en santé mentale sur le TDAH ou sur des méthodes novatrices
oui,
pour justement aider à améliorer ses capacités attentionnelles. Donc, dans ces lieux-là, nous allons présenter. Nous allons aussi avoir des publications, comme je disais tout à l'heure. Et nous avons aussi des étudiantes qui travaillent avec nous et qui aimeraient compléter leur doctorat sur le sujet. Donc, à ce niveau-là aussi, c'est un projet là qui va continuer à grandir. Nos données vont être utilisées et vont être publiées dans plusieurs sphères.
Parfait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous expliquer tout ça. On a hâte de voir les résultats. Merci d'avoir été des nôtres à Folie Douce, Mme Hélène Brisebois et Andrea Zabot. Donc, merci et bonne continuité.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Marche un peu dans mes souliers, you can't get enough. Je portais que du 10, mais non, je porte que du 9. L'idée d'un génie, l'idole d'une génération. Qui marche avec les chiens, qui danse avec les avions. J'crée des rapports, j'ai déduit de mes impôts. C'est pas demain la veille qu'on va se réveiller pour. Tu peux me payer content, tu peux me payer plus. Mais si tu payes pas, tu vas payer pour. We don't play like this, j'ai rien à faire, that I gotta go. J'ai déjà éliminé tout le monde a while ago. Aujourd'hui j'me sens seul au monde dans ma catégorie. Les nouveaux riches dans les quatre pots. You know how it goes. On a pris le boulot par les corses. Tu crois pas qu'on est les gouttes, on s'en bat les corps. Rêveur américain, but never make it rain. Si je voulais lancer mon argent par les fenêtres, je restais à l'école. Allez, life that I deserve. 200 000 à l'heure dans les arbres à la mer azur. Oh, j'étais naïf, mais la life m'a ouvert les yeux. Les nouveaux riches seront toujours riches. You know how this works, allez, life. Life. Marche un peu dans mes souliers, you can't get enough. On fait que des demandes, on reçoit que des œuvres. Fini la charité, now we taking dollars. Faudrait me payer cher pour faire du bénévolat. Dois rien à personne, on reste à l'écart. J'évite les regards et les caméras. J'fais confiance à personne avec l'âge. Mon chemin, c'est l'ami, so je l'appelle Doc. What up, Doc? A little life that I deserve. Même les deux pieds dans la neige, Hawaiian shirt. Juste pour le rappeler, c'est qui le padre du rapture?
parle à ma main, parle à mon manager. You know I'm a jerk. Ils essaient de copier le phénomène. Ils ont mieux travaillé les fins de semaine. Le rappeur préféré de tous tes rappeurs préférés, a.k.a. le choix des professionnels. C'est rien de personnel. Vers de nouveaux sommets, ils ont marché sur la lune. On va marcher sur le soleil. Ils ont marché sur la lune. On va marcher sur le soleil. Pis s'il fait trop chaud, on va y aller la nuit. Now get this money, little life that I deserve. 200 000 à l'heure dans les airs vers la mer azur. Oh, j'étais naïf, mais la life m'a ouvert les yeux. Les nouveaux riches seront toujours riches. You know how this works, a little life.
Vous voulez savoir de quoi on a de l'air et qu'est-ce qu'on mange en hiver? Venez découvrir notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
Nous poursuivons au micro à l'espresso allongé avec le même sujet entamé plus tôt, la légalisation du cannabis. Donc, Pierre Laporte et Gilles Lamalot toujours présents.
Oui.
Pierre, moi, ce que je me demandais, en fait, est-ce que les jeunes, on parlait tantôt des jeunes, puis c'est dommageable, tout ça, est-ce que ça va les encourager à plus consommer? Ou ça va juste transférer les gens qui consomment déjà? C'est ça que j'ai...
Mais c'est la grosse question que tout le monde se pose.
La situation des médecins psychiatres, je pense, semblait dire que la facilité, la légalisation de ça allait peut-être encourager les jeunes, et ce qui n'était pas une bonne chose selon eux.
Oui, bien, on avait déjà légalisé chez nos voisins américains, ouais. dans l'État du Colorado et du Washington. Puis je vais revenir, ouais. je vais venir là-dessus un peu plus tard. Oui. On a déjà des statistiques là-dessus.
Puis on va souligner qu'il y a un pays qui va plus loin que les deux États puis le Canada, c'est l'Uruguay.
L'Uruguay, il y a aussi le Danemark.
Qui fait quoi, l'Uruguay?
C'est-à-dire, les gens peuvent acheter leur cannabis en pharmacie.
Ouais.
Puis vraiment, il n'y a pas des contraintes. Il y en a un peu, mais ils peuvent l'acheter. Les autres, ils ont comme, tu sais, vraiment, je pense que c'est plus criminel. Il y a peu de règles. C'est déjà fait.
Okay.
Alors, je vais terminer la lecture de l'article que j'avais commencé tantôt, un article de M. François Drouin, qui est journaliste. L'article s'intitule « La légalisation du cannabis dans le collimateur des psychiatres ». Monsieur Drouin nous dit les médecins psychiatres du Québec, l'AMPQ s'attend à une hausse notable de consultations. L'AMPQ a donc déposé une série de recommandations, 10 au total, dans le but de limiter les impacts chez les jeunes. Limiter l'âge légal de consommation à 21 ans constitue un compromis, admet le docteur de la Sablonnière, permettant de réduire les impacts. L'AMPQ recommande aussi d'interdire la production de cannabis à des fins non médicales au domicile, de déterminer une concentration maximale de THC, qui est la molécule principale du cannabis, et d'en obliger l'indication lors de l'achat. C'est un peu comme quand qu'on achète de l'alcool, par exemple. On a le pourcentage d'alcool.
Et il y a une espèce d'appellation contrôlée. Donc, c'est ça.
On aurait la même chose.
Un certain contrôle, parce que j'ai l'impression qu'au début, il va y avoir des ratés aussi dans ce domaine-là.
Les professionnels de la santé s'inspirent aussi de ce qui se fait actuellement avec l'industrie du tabac pour en contrôler la vente, c'est-à-dire interdire toute forme de publicité. On doit exclure tout élément de marketing. On doit retirer le côté cool lié à la consommation de cannabis et qui fait des ravages chez les adolescents. L'Association des médecins psychiatres du Québec propose aussi d'adopter un modèle de distribution qui n'est soumis à aucune logique de profit. Exit donc la SAQ. L'association suggère également de développer un programme d'éducation dans le système des études, de développer des outils pour les parents, de déployer des campagnes de publicité visant à débanaliser l'utilisation du cannabis et d'assurer un financement adéquat aux provinces afin d'assurer des ressources additionnelles.
Ça va certainement prendre plusieurs années d'essais-erreurs parce que ça sera pas facile. Je pense que ça va prendre plusieurs années avant vraiment d'avoir un vrai portrait.
Parce que tu vois, aux États-Unis, au Colorado et dans l'État de Washington, ça fait pas tellement longtemps, c'est en 2014.
C'est ça.
L'Association des psychiatres a présenté son document lors des consultations publiques sur la légalisation du cannabis qui ont eu lieu à Rimouski en 2017. Dans un autre article, M. Jean-François Cliche, qui est journaliste au journal Le Soleil, avait écrit dans un article intitulé « Les psychiatres inquiets de la légalisation du cannabis ». Il avait fait mention qu'au Colorado, où le pot est légal depuis janvier 2014, on rapporte de fortes augmentations de consultations liées au cannabis dans les urgences psychiatriques. Et dans un autre article sur Internet intitulé « Légaliser le cannabis peut entraîner plus d'accidents mortels », le journaliste François Cormier écrit que les données de deux États américains ayant légalisé le cannabis en 2014, dont je viens de mentionner, démontrent aussi une hausse d'accidents mortels dans lesquels sont impliqués des chauffeurs ayant consommé de cette drogue. Les expériences du Colorado et de l'État de Washington, donc, inquiètent. Rien pour rassurer les 59 % de Canadiens qui, selon un récent sondage de Radio-Canada, craignent une augmentation des accidents de la route une fois la marijuana légale. Au Colorado, le pourcentage d'accidents impliquant des chauffeurs ayant consommé du cannabis n'a cessé d'augmenter depuis la légalisation. Il a bondi de 75 % entre 2013 et 2016. Et en 2017, il y a même eu 3 accidents lors desquels les 2 chauffeurs impliqués en avaient fumé.
Donc, ça prouve que il risque d'avoir une augmentation de la consommation.
Aujourd'hui, il y a des gens qui conduisent quand même sous l'effet du cannabis. Faut pas s'illusionner.
Oui, mais en banalisant, ou en tout cas, oui. ce qu'on ressent dans la société, comme quoi c'est beau, c'est légal, puis on peut fumer, c'est ça. Là.
C'est une loi qui va avoir son bon et son mauvais côté. Oui.
Si on regarde dans l'État de Washington, on constate une augmentation des accidents mortels aussi lié au cannabis, et seulement même dans la première année de légalisation, soit en 2014. En 2015, ce pourcentage est revenu à un niveau comparable aux années précédentes. C'est une possibilité que les gens se disent maintenant que c'est légal, alors ça ne doit pas être si dangereux. Mais on dit que le Canada sera plus sévère. La limite légale pour conduire après avoir consommé de la marijuana sera plus sévère au Canada que dans ces deux États américains. La limite canadienne sera fixée à 2 nanogrammes de THC par millilitre dans le sang, alors qu'au Colorado et dans l'État de Washington, ils ont une limite de 5 nanogrammes. Donc, c'est plus que le double. Selon les chercheurs, en terminant, une seule bouffée d'un joint fait dépasser cette limite. Oh, il faut même attendre plusieurs heures avant d'être en état de conduire.
Il faut éviter complètement avant de conduire, c'est sûr. Merci beaucoup, Pierre.
Si notre route nous est si chère, c'est que c'est la seule qu'on n'ait jamais connue. Et si nos doutes ont fait marche arrière, c'est que leur sale gueule ne nous revenait plus. Avec leur dégaine de gangster, leur mauvaise manière et leurs idées tordues. Je sais qu'on est un homme, que quand on a vaincu, oui, mais au pied du podium, nous on ne sera même pas déçu. On ne regrette pas ce que n'a jamais eu. Comme ces oiseaux en hiver qui s'en iront quand le froid sera revenu, on volera en fait dans les airs, même le vent ne nous dévira presque plus. Avec nos casques, nos visières, on chassera le temps qu'on avait perdu. Je sais qu'on est un homme, que quand on a vaincu.
Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
Pour conclure ce rendez-vous de Folie douce, on y va avec la nomenclature des chansons, comme oui, à notre habitude de Justine Mahalo. Exactement. On écoutait en début d'émission la chanson « Âme mélodique ».
Le NAC.
On écoutait « Freak d'amour ».
De Steffi Choc.
Dans la deuxième demi, on a pu entendre « Nouveau riche ».
De Loud.
Et à l'instant, « Notre route ».
De Dalton Telegram.
Voilà. Bien, merci beaucoup pour votre choix musical. Merci pour ta participation au micro.
Beaucoup.
Merci à Pierre pour la mise en onde.
Bienvenue.
Ainsi que pour tes blocs espresso et espresso allongé où tu nous as parlé de la légalisation du cannabis.
Mm-hmm.
Donc, un grand sujet qui va faire couler de l'encre, pour ne pas dire qu'il va faire fumer.
Mais, c'est
fumant comme sujet, effectivement. Mais je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Je remercie notre invité en début d'émission, Francine Dubé, de la Société québécoise de la schizophrénie. Et également nos invités en début de deuxième demi, André Zabot et Hélène Brisebois, qui nous ont parlé d'une recherche auprès des étudiants au niveau du Collège Montmorency sur le neurofeedback. Alors, tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. Merci beaucoup à tout le monde. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine et à la prochaine. Folie douce. Au revoir.